7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 7 décembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, 2 à 3 jours de télétravail par semaine, la fermeture des discothèques et l'accélération sur la vaccination des plus de 65 ans et des enfants. On fait le point dès le début de ce journal sur les mesures annoncées par le gouvernement pour tenter de contenir la 5e vague de Covid. Tout cela donc après les autres titres.
Joe Biden et Vladimir Poutine vont tenter de calmer le jeu sur l'Ukraine. Les deux dirigeants s'entretiennent aujourd'hui en visioconférence. Dans ce journal, le témoignage d'une jeune femme à qui l'employeur a demandé qu'elle change son nom pour qu'il sonne moins maghrébin. La défenseure des droits publie aujourd'hui son baromètre des discriminations dans l'emploi. Et puis entre autoportrait et performance, Samuel Fosso, 50 ans de photos exposées à la Maison européenne de la photographie à Paris.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Elle vient tout juste d'être nommée porte-parole de la campagne de Yannick Jadot pour la présidentielle. Cette femme de caractère réussira-t-elle à faire décoller la campagne du candidat écolo? Delphine Bateau sera avec moi à 7h50.
Et on se retrouvera, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale. Point sur la situation sanitaire de la France avec le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Dernier appel de vigilance avant de serrer la vis. C'est un peu le message passé hier par le gouvernement pour affronter la 5e vague de Covid qui monte avant Noël. Pas de vraies nouvelles restrictions à l'exception notable de la fermeture des discothèques. On va y revenir. Pas de jauge, de couvre-feu ou de confinement, mais on le met le paquet sur les mesures barrières. Et ça commence dans les entreprises, rappelle le Premier ministre Jean Castex.
Il faut que sur l'ensemble du territoire, toutes les entreprises qui le peuvent et ne le font pas encore, mobilisent le télétravail. La cible doit être 2 à 3 jours de télétravail par semaine, sous réserve, bien sûr, des contraintes liées à l'organisation du travail et de la situation des salariés. Pour la fonction publique de l'État, nous autoriserons jusqu'à 3 jours. Nous comptons sur la pleine mobilisation des entreprises. Nous ferons le point d'ici une semaine pour mesurer l'évolution des pratiques. Et si cela ne fonctionnait pas par la voie de la recommandation, ce qui est notre choix, nous serions amenés à passer par celle d'une obligation.
Une seule obligation annoncée hier. Toutefois, les discothèques ferment dès vendredi et pour 4 semaines jusque début janvier. Elles ne seront donc pas restées ouvertes plus de 5 mois et se voient privées de la soirée de l'année, le réveillon du nouvel an. Ce qui est vécu comme une injustice par ce patron de boîte de nuit, le Chanel à Metz, Olivier Mollary avec Anaïs Gaut de France Bleu Lorraine Nord.
Je suis dégoûté. Ah, j'ai des larmes qui me viennent. C'est une catastrophe. Ils ne parlent que des discothèques, alors que dans notre région, vous savez très bien le nombre de bars festifs qu'il y a, où ce sont juste les horaires qui changent. Dans tous les bars de la ville, on vous demande votre passe sanitaire. À partir du moment où il est vert, vous entrez, sans se soucier qu'il soit faux, donc qu'il a été piqué à un copain, et les bars sont bondés, les bars festifs. Donc ce sont des établissements qui commencent leur apéro à 18h jusqu'à 2h du matin. Or nous, on a du monde à partir de 2h, jusqu'à 5h. Donc nous, on travaille 3h. Et nous, on nous ferme parce qu'on dit que c'est en discothèque qu'il y a le plus. Alors que nous, on demandait les passes sanitaires obligatoires, carte d'identité obligatoire physique. Donc je trouve ça vraiment honteux. Ce sont des gens vraiment qui ne sont pas dans la réalité, sont à côté de leur pompe complet.
Et le ministre délégué au PME recevra aujourd'hui les représentants des 1200 discothèques de France et des 300 traiteurs impactés. Deuxième volet après les mesures barrières, la vaccination. Et là, 2 axes, plus besoin d'un rendez-vous pour les plus de 65 ans dans les centres de vaccination, histoire d'accélérer la cadence. Quant aux enfants, le calendrier est plus clair. Les 360 000 plus fragiles pourront se faire vacciner dès le 15 décembre. Pour les autres, si feu vert des autorités, ils pourront se faire vacciner vers le 20 décembre dans les centres, vers le 27 chez les médecins et en pharmacie. Les enfants du primaire qui devront de toute façon porter le masque tout le temps dès jeudi et réduire les brassages à l'école à partir de lundi, car le taux d'incidence bondit. 917 cas pour 100 000 habitants chez les plus jeunes, plus testés certes, mais c'est le double du reste de la population. Alors pour y voir plus clair dans les chiffres, un enseignant-chercheur en informatique à l'université de Haute-Alsace a mis au point un simulateur sur la probabilité d'infection des enfants, Noémie Lair.
À partir du taux d'incidence, Germain Forestier a pu estimer la probabilité qu'au sein d'une classe type de 30 élèves, au moins un enfant soit infecté par le Covid-19.
On a de très nombreux départements où on a une probabilité de plus de 50%.
En clair, il y a un risque sur deux qu'au moins un enfant soit positif.
C'est vous tirez à pile ou face. Pile, il y a un enfant contaminé, face, il n'y a pas d'enfant contaminé.
Les départements avec la probabilité la plus forte sont l'Ardèche, la Drôme et les Hautes-Pyrénées.
Ça s'étend partout, alors on a effectivement, des départements du sud-est qui ont vraiment des taux extrêmement élevés, ça suit vraiment les taux d'incidence. Et après, là, c'est vraiment national. Hein.
Avec cet outil, Germain Forestier veut vulgariser les informations souvent complexes autour du virus.
Ce calcul que je fais est complètement proportionnel par rapport au taux d'incidence. C'est simplement une autre manière de représenter les choses, parce que voilà, un taux d'incidence, ça parle peut-être pas trop aux gens, dire 500, 600, 800, on monte à 1000. Peut-être qu'en disant voilà la probabilité qu'il y ait un enfant contaminé dans un groupe de 30, peut-être que ça parle plus aux gens.
Il s'agit toutefois d'estimations, avec leurs limites. Elles ne déterminent pas, par exemple, le risque de contracter le virus, qui dépendra notamment du respect des gestes barrières et de la vaccination.
Et la carte des départements est à retrouver sur franceinter.fr, ainsi qu'un dossier complet sur les annonces d'hier. Un immeuble de 3 étages s'est effondré cette nuit à Sanary-sur-Mer. 2 personnes ont été extraites des décombres. L'immeuble s'est effondré à la suite d'une explosion indéterminée. 70 pompiers sont sur place. Plus de précisions dans le journal de 7h30.
Il est 7h06, comme un air de guerre froide, Anaïs, avec cet entretien à haut risque entre les dirigeants russes et américains.
La vidéoconférence a remplacé l'antique téléphone rouge, mais les données n'ont pas changé. Bluff de Vladimir Poutine ou vrai risque d'escalade militaire en Ukraine. La France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis, dans un communiqué cette nuit, se disent déterminés à ce que la souveraineté de l'Ukraine soit respectée. La pression diplomatique monte, Bertrand Galichet.
Entre menaces américaines et déni russe, l'entretien en visioconférence prévu aujourd'hui entre Joe Biden et Vladimir Poutine promet d'être franc et tendu 6 mois après leur tête-à-tête à Genève. Moscou, qui dément toujours vouloir attaquer l'Ukraine, indique ne pas s'attendre à une percée lors de ces négociations. La Russie estime peu probable que ces entretiens suffisent à mettre de l'ordre dans des relations bilatérales qu'elle juge dans un triste état. Le porte-parole du Kremlin dit pourtant qu'il est toujours mieux de communiquer. En fait de dialogue, Washington a déjà dévoilé une partie de ses cartes. Si la Russie attaquait l'Ukraine, les États-Unis n'interviendraient pas directement, mais soutiendraient l'armée ukrainienne, augmenteraient leur capacité auprès de l'OTAN et prendraient des sanctions économiques inédites contre la Russie. Pour préparer cette rencontre virtuelle entre Joe Biden et Vladimir Poutine, des concertations entre les États-Unis et leurs principaux alliés européens ont eu lieu pour coordonner le message, et le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est entretenu avec le président ukrainien Zelensky.
Et les États-Unis qui confirment le boycott diplomatique des JO de Pékin cette nuit à cause des violations des droits de l'homme. Les athlètes américains iront en Chine, mais aucun représentant politique. Et puis Israël frappe la Syrie. Bombardement cette nuit sur des conteneurs dans le port de Latakia. Ils sont jeunes, travaillent ou cherchent un emploi et comblent de malheur, n'ont pas la bonne couleur de peau. En tout cas, c'est ce qu'on leur fait sentir. 68% des jeunes de moins de 34 ans se disent discriminés sur leur origine. Résultat du 14e baromètre de la Défenseur des droits publié ce matin. Écoutez l'histoire de cette jeune femme qui raconte sa mésaventure pour la première fois à Valentin Dunatte.
Cette jeune femme est embauchée en tant que commerciale dans une société de télécommunications en juin 2019. 2 mois plus tard, son entreprise lui demande de changer son nom et son prénom.
Ils m'ont dit en fait, voilà, déjà d'origine arabe maghrébine, les clients ils vont pas, enfin pour eux c'est pas une bonne réputation.
Sa direction lui laisse une soirée pour y réfléchir et le lendemain matin, elle reçoit un mail avec une liste de noms et de prénoms à consonance française.
Je dis non, je change pas. Et vers 14h, le patron m'a carrément créé une adresse mail. Il m'a dit, voilà, c'est ça ton nouveau nom et prénom et ta nouvelle adresse mail. Je me suis sentie, en fait, rejetée en fait, par la société. Après, je me suis enfermée, en fait, chez moi pendant 3 semaines. Hein. Je suis restée chez moi 3 semaines sans sortir.
Pour ne pas en rester là, elle saisit les prud'hommes qui estiment cet été, 2 ans après les faits, qu'il s'agit là d'un ressenti, mais pas de discrimination proprement dit.
Ça m'a encore, en fait, vraiment humiliée un peu plus. Il y a encore une partie au fond du moi psychologiquement qui me dit voilà, je suis d'origine maghrébine et j'ai pas les mêmes chances que quelqu'un d'autre en fait.
Cette jeune femme a fait appel de cette décision. En attendant, elle a retrouvé du travail dans une autre entreprise.
Avec mon vrai nom et mon vrai prénom.
Témoignage recueilli par Valentin Dunat. Il n'en manque qu'un pour compléter le puzzle des candidats à la présidentielle. Emmanuel Macron en visite de 2 jours dans le Cher et l'Allier pour parler vie quotidienne sur le terrain. Et puis le gouvernement se décide finalement à reprendre à son compte la proposition d'allonger le délai pour l'IVG de 12 à 14 semaines et inscrit le texte à l'ordre du jour du Sénat en janvier. Déjà adopté à l'Assemblée, la proposition de loi pourra donc potentiellement être adoptée d'ici à la fin de la mandature. Quand la pénurie des semi-conducteurs fait faire le yo-yo aux usines de voitures à Sochaux, berceau historique de Peugeot, on connaît des hauts et des bas. Un haut aujourd'hui avec l'équipe de nuit de Stellantis, 800 personnes, Kathleen Comte, qui vient de retrouver le chemin de l'usine.
C'est une bonne nouvelle pour Jérôme Boussard, secrétaire général CGT Stellantis Sochaux. Après 3 mois d'arrêt, il y a donc de nouveau une équipe de nuit. Mais pour combien de temps?
Les salariés signent des avenants de contrat de travail, hein, parce qu'ils sont obligés de signer des avenants, mais ils les signent sur 1 mois. C'est une petite visibilité pour l'instant. On ne sait pas combien de temps elle va durer. L'équipe de nuit, ça se trouve, ils vont nous la redémonter dans 2 mois. Quoi.
La direction, elle, affirme vouloir une reprise pérenne de l'équipe de nuit à Sochaux. Elle confirme l'embellie et rappelle que 1200 véhicules sont actuellement produits chaque jour dans l'usine, contre 800 ces derniers mois. Pour Éric Pelletier, délégué syndical Force Ouvrière à Stellantis, c'est donc la preuve que la situation s'améliore.
C'est bon signe pour le site de Sochaux, c'est bon signe pour Stellantis, c'est bon signe aussi pour l'ensemble des sous-traitants qui sont autour de chez nous. Parce que chaque fois que nous, on remonte une équipe, les sous-traitants remontent eux aussi des équipes. Donc c'est encore, des emplois qui sont là et on espère qu'ils vont durer longtemps. Quoi.
Des emplois également au sein de l'usine pour former l'équipe de nuit. Parmi les 850 personnes qui la composent, 600 intérimaires ont été recrutés.
Et la pénurie des semi-conducteurs pourrait encore durer jusqu'en 2023. Il cultive l'humour à travers sa photographie depuis plus de 40 ans. Samuel Fosso, l'une des grandes figures de la photo africaine. Isabelle Pasquier, la Maison européenne de la photographie, lui consacre sa première rétrospective avec cette galerie d'autoportraits où il incarne lui-même toute une série de personnages.
Samuel Fosso est né handicapé et par honte, ses parents ne l'ont jamais pris en photo. Mais ses centaines d'autoportraits seront sa revanche sur une vie qui lui a fait connaître les guerres, les deuils, la famine. À 13 ans, il crée son studio à Bangui et fait des autoportraits pour les envoyer à sa grand-mère. Très vite, il incarne totalement des personnages. En mode yéyé, pas de def, en golfeur dandy, en pape noir et dans sa série African Spirits, il incarne Mandela, Malcolm X et même Angela Davis.
Quand je suis venu au photographe, j'ai lu l'histoire concernant l'esclavage, comment c'est traité par rapport à ce que ma grand-mère me dit, comment les gens, les noirs souffrirent. Et je me sentais concerné et c'est ça qui m'a poussé de faire toutes ces séries. Les droits civiques aux États-Unis, les gens qui demandaient l'indépendance pour l'Afrique, tout simplement pour les rendre hommage.
Samuel Fosso incarne même Mao pour dénoncer la destruction des terres africaines par la Chine. Sa dernière série s'intitule 666, le chiffre du diable. Impressionnant, 666 autoportraits, mais cette fois c'est lui. 666 expressions différentes, de la joie à l'angoisse, pour exorciser ses malheurs et démons intérieurs. La photo pour devenir un homme comme les autres, un homme qui marche vers sa vérité.
Et Samuel Fosso à la Maison européenne de la photographie de Paris, à voir jusqu'en mars.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le zoom à Moscou dans la rédaction du journal Novaya Gazeta.